Alors cette émission va marquer un basculement dans notre parcours. On a fait pour l'instant la phase essentielle de la réception et d'intériorisation, et maintenant on va passer à la phase non moins essentielle de l'action. Alors, rappel des premiers épisodes pour ceux qui se seraient endormis, pour ceux qui ne les auraient pas suivis, ou tout simplement pour ceux à qui ça commence à faire un peu loin. Alors, on a commencé par poser un acte de démarrage. Pour entrer dans une démarche de conversion écologique, il faut ralentir, premier thème du parcours, afin de prendre le temps de recevoir le don de la création et de retrouver la place ajustée de l'homme dans cette création. En allant plus loin dans un deuxième temps, ralentir, ça permet de soigner les autres relations fondamentales, donc moi-même, les autres et enfin Dieu, qui sont blessés par le péché, à travers l'expérience de la rencontre, qui constitue l'ossature d'une conversion écologique authentique. Deuxième thème du parcours, la conversion écologique qui prend sa source dans une expérience de contemplation. Rentrer dans la dynamique de contemplation de Dieu, qui s'est arrêté pour prendre le temps de contempler son œuvre, et qui propose le travail comme un moyen d'approfondissement de la contemplation du monde. Et cette contemplation trouve son achèvement dans le repos dominical, et en particulier dans l'Eucharistie. La contemplation a également pour conséquence de nous faire prendre conscience de la présence intime de Dieu au quotidien, et ça nous mène à l'espérance, ça nous fait nous situer dans un rapport équilibré face à l'urgence de préserver la maison commune. Entre l'activisme et le passivisme, entre un Dieu omnipotent et un Dieu absent. Donc on en était là, dans cette phase de réception, d'intériorisation du don de la création. Et une fois qu'on a pris ce temps qui est absolument nécessaire pour ne pas se tromper de but, on peut résolument passer à l'action en poursuivant notre parcours. Je rappelle, ne pas se tromper de but, ça veut dire croire que Laudato Si n'est pas du tout un programme politique ou une feuille de route philanthrope, mais que c'est bien un texte prophétique pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Voilà, si vous avez suivi les premiers topos, vous commencez à le comprendre. Alors, nous en sommes au troisième grand moment du parcours. Le thème, c'est partager. Donc, pourquoi parler du partage? Vous allez me dire que ce thème, ça sent bon le social et que, à ce qu'on sache, l'émission s'appelle Laudato Si et pas Fratelli Tutti. Alors, soit ce serait oublier que, avant d'être une encyclique écologique, Laudato Si est d'abord une encyclique sociale. Et le patriarche Bartholomée, dont on avait déjà parlé dans cette émission, donne dans sa définition de la conversion écologique le fait, notamment, de passer du gaspillage à la capacité de partager. Donc voilà, on est vraiment en plein dans le thème. Et d'ailleurs, la conversion comprend une dimension d'aumône, si on se rappelle les piliers du carême. Alors, au programme de ce jour, dans un premier temps, on va analyser cette dimension du partage dans l'encyclique Laudato Si, puis on tirera les conséquences pratiques de cette dimension en passant notre système économique au crible de nos désormais classiques quatre relations fondamentales dans la rubrique Laudato Si au quotidien. Peut-être avant de continuer, j'aimerais, si vous, auditeurs, pouviez peut-être réagir à la fin pour me dire simplement si les topos sont trop longs, si un temps d'antenne ouverte serait plus approprié. Voilà, n'hésitez pas à envoyer un texto à la rédaction pour dire ce que vous en pensez, comme ça on pourra essayer d'ajuster la suite du parcours. Alors, premier point et première partie de ce topo, tout est lié. Donc on va analyser la dimension de partage dans Laudato Si avec cette phrase « tout est lié ». En effet, si on devait résumer l'encyclique, c'est la phrase très appropriée qui permettrait de la résumer. Elle apparaît dès le numéro 16, donc dans les premières pages de l'encyclique, et revient ensuite 8 fois, donc 9 fois en tout, le pape martèle « tout est lié ». Et donc elle nous interpelle sur le fait que les problématiques sociales et environnementales sont intimement liées et inséparables. Je cite Laudato Si au numéro 70. La protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice, ainsi que de la fidélité aux autres. Et au numéro 91, il faut donc une préoccupation pour l'environnement, unie à un amour sincère envers les êtres humains et un engagement constant pour les problèmes de la société. Alors, tout est lié. Pourquoi est-ce que tout est lié? On va faire déjà un petit focus théologique, et puis ensuite on en tirera les principales conséquences à l'école de l'encyclique. Donc on va commencer par un constat. Par notre filiation commune, la race humaine est solidaire dans une même fraternité. Notre Père commun fait de nous des frères et sœurs, de tous et de tout. Deux faits intéressants pour cela. Première chose, c'est quand on dit Notre Père, de manière, j'espère, quotidienne, est-ce qu'on est bien conscient que cette prière qu'on répète depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est baptisé, elle nous inscrit dans une filiation divine universelle qui fait des hommes des frères. Laudato si nous le rappelle au 228, Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun, ce qui fait de nous des frères. Et d'ailleurs, deuxième chose, l'encyclique ne dit pas autre chose quand elle part de la maison commune dès le sous-titre. Voilà, si nous avons une maison commune, c'est bien que nous faisons partie d'une seule et même famille. Si on prend un exemple de la vie quotidienne, une famille qui doit organiser les répétitions de musique de ses enfants. Il y en a un qui fait de la guitare, l'autre qui fait du piano, et puis l'autre qui fait de la trompette. Eh ben, il faut s'organiser pour que chacun puisse répéter de son côté, pour qu'on ne gêne pas les voisins avec la trompette, pour pas qu'on fasse trop de bruit pour ceux qui passent dans la rue, etc., etc. Vivre en paix suppose qu'on s'organise pour que chacun ait sa voix et qu'on puisse prendre soin de la maison. Et donc, il est aisé de faire une généralisation aux différentes activités humaines et à leurs conséquences sur la maison commune. Ah, si le voisin d'à côté déverse des produits chimiques dans mes canalisations, si le voisin du dessous commence à m'asphyxier en fumant devant ma fenêtre, etc., etc., eh ben, la vie devient vite insupportable. Et donc, si on passe de les produits chimiques dans mes canalisations à des produits chimiques dans les rivières, m'asphyxier à fumer devant ma fenêtre, je sais pas, à polluer en ayant une usine à côté de chez moi. Voilà, la généralisation à la maison commune est assez vite faite. Et puis conséquence encore plus, on va dire encore plus théologiquement profonde, qu'est-ce qui unit le plus fort le genre humain? Bah, c'est que depuis le 3 avril 1933, je suis allé regarder la date, c'est le 3 avril 1933, par sa mort sur la croix, Jésus a réconcilié Caïn et Abel et restauré la fraternité entre nous. Et d'ailleurs, c'est même en Dieu que cette fraternité ou que cette unité est la plus visible, parce que Dieu est en trine, tout ce qui existe en lui est à la fois diversité, mais toute cette diversité est liée. Donc tout est lié, c'est pas juste une lubie du pape François, c'est d'abord la conséquence de qui est Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que François, au chapitre 6, dans la septième partie, explique. Les conséquences trinitaires. Avant de parler de Marie, reine de la création, il explique les conséquences trinitaires, en tout cas, les conséquences écologiques d'un Dieu trinité. Alors tout est lié, ok, on a vu l'origine. Maintenant, quelles sont les conséquences? Alors, première conséquence de tout est lié, c'est que les responsabilités doivent être partagées. Pour trouver une solution, enfin des solutions, la solution n'est pas unique. À la crise climatique et plus largement à la crise écologique, l'une étant incluse dans l'autre, on ne peut pas réduire ces solutions à l'action d'un pouvoir centralisé. D'ailleurs, c'est ce qui permet de clore le débat entre une action individuelle et une action collective. Si je me dis, j'attends que les politiques prennent en compte le changement climatique pour me mettre au vélo, ou si les pouvoirs politiques se disent, j'interdirai les pesticides quand les gens se seront tous mis au vélo, bah on voit que personne ne fait rien et qu'on va droit dans le mur. Une action efficace, c'est une action qui est prise à tous les niveaux. Une action politique est capitale, mais elle est insuffisante lorsqu'elle est seule. Des initiatives individuelles sont capitales, mais elles sont insuffisantes lorsqu'elles sont seules. Et donc, c'est toutes les strates de la société qui doivent prendre cette responsabilité. Dans la doctrine sociale de l'Église, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Si je cite le compendium de la DSE au numéro 186, qui donne la définition de ce principe. Toutes les sociétés d'ordre supérieur doivent se mettre en attitude d'aide par rapport aux sociétés d'ordre mineur. Donc, ce qui veut dire, voilà, que chaque étage de la société a son mot à dire et a son action à faire, que ce soit au niveau individuel, au niveau familial, au niveau paroissial, communautaire, au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau de la nation, et puis finalement au niveau mondial. Il existe des instances à tous ces niveaux, voilà, qui doivent œuvrer pour protéger la maison commune. Et d'ailleurs, Laudato si appelle à un dialogue incessant entre ces différentes instances. C'est ce qu'on trouve dans le chapitre 5, qui est un chapitre un peu plus, j'oserais pas dire rébarbatif, mais en tout cas qui est beaucoup plus orienté politique, action internationale. Et donc au numéro 180, François nous dit, on ne peut pas penser à des recettes uniformes, parce que chaque pays ou région a des problèmes et des limites spécifiques. Et ce qui est intéressant dans le fait de partager les responsabilités, c'est que ce n'est pas juste une organisation humaine, mais c'est voulu par Dieu. Il y a une diversité des dons voulus par Dieu qui permet voilà, que chacun puisse prendre ses responsabilités. Je vous renvoie à la deuxième lecture d'hier dans 1 Corinthiens 12. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit en vue de la manifestation du bien. Donc, première conséquence de ce tout est lié, les responsabilités doivent être partagées. Deuxième niveau de partage, c'est le partage au niveau mondial. Donc, il est principalement ici du partage, principalement question, pardon, du partage des ressources et des richesses, qui sont des questions, on va dire, d'ordre principalement politique. On se dit, ah bah c'est de l'ordre des relations entre les États, c'est de l'ordre des relations entre les grandes entreprises, entre les ONG qui défendent le partage des richesses et les États. Alors oui, mais pas que. Il y a effectivement dans un premier temps cette question assez difficile du partage des ressources, parce que c'est pas si simple de dire ah bah oui, il faut partager, parce que de nombreux paramètres entrent en jeu, que ce soit des paramètres culturels, géopolitiques. Et là-dessus, l'Afrique est un cas criant, avec l'exploitation par des opérateurs exclusivement, quasi exclusivement étrangers à part l'Afrique du Sud, sur la mainmise des sous-sols. Et voilà. Et d'ailleurs, on a beau jeu de se flageller, nous, les Occidentaux, quand on regarde la razzia qu'est en train de mener la Chine sur l'Afrique, on pourrait passer pour des enfants de cœur. Donc voilà, une situation assez préoccupante. Au numéro 51, quand François fait le constat de ce qui se passe dans notre maison commune, il nous dit, ces inégalités obligent à penser à une éthique des relations internationales. Voilà, on n'est plus uniquement dans le. On n'est plus uniquement dans l'écologie pure où on va sauver les ours polaires et installer des éoliennes partout. Ces inégalités obligent à penser à une éthique des relations internationales. Il y a une vraie dette écologique. Là, on voit que tout est lié, particulièrement entre le Nord et le Sud, lié à des déséquilibres commerciaux, avec des conséquences dans le domaine écologique, et lié aussi à l'utilisation disproportionnée des ressources naturelles, historiquement pratiquées par certains pays. Alors là, on regarde de loin, on se dit, bon, bah ok, c'est ok, c'est les grands de ce monde qui vont se mettre d'accord entre eux. Oui, mais derrière des considérations qui pourraient passer pour bien lointaines, derrière ces considérations-là, il faut qu'il y ait quelque chose, parce que les entreprises et les États ne vont pas se battre pour des ressources naturelles juste pour le plaisir de se battre pour elles, mais parce qu'il y a derrière nos désirs de consommateurs. Grâce à l'uranium du Sahel, on a de l'électricité à très bas coût, pour charger nos téléphones, regarder la télé, conduire nos véhicules électriques, j'en passe et des meilleurs. Grâce aux métaux rares russes ou chinois, grâce à l'or du Brésil, nos téléphones sont toujours plus performants, les batteries de nos véhicules électriques sont toujours plus autonomes, etc., etc. Et n'oublions pas que derrière, ce sont toujours des hommes qui sont exploités dans des conditions dont on ne peut pas être fier. Donc voilà, tout est lié. C'est pas uniquement la faute des politiques, mais derrière, profondément, nous avons aussi notre responsabilité dans cette question du partage des ressources et des richesses au niveau mondial. Alors, quelques pistes voilà, que j'évoque ici. Acheter un Fairphone, je ne sais pas si vous connaissez Fairphone, qui est une marque de téléphone. Alors, voilà, j'en fais la publicité, je ne sais pas si c'est autorisé sur Radio Maria, mais tant pis. Qui sont des téléphones qui sont à la fois très réparables, avec des pièces facilement identifiables. La communauté des utilisateurs va vous dire, bah tenez, il faut changer votre carte graphique. Pof, vous sortez la carte graphique, vous en rachetez une nouvelle sur le site de Fairphone. Pof, vous la remettez, le téléphone refonctionne. Et également, les sources sont très bien identifiées et les filières de production sont le plus propres possible, on va dire, avec un focus particulier sur l'extraction des minerais. Voilà, première piste. Deuxième piste, ça peut être n'acheter que du thé, du café, du chocolat en équitable. Ça peut être acheter ses meubles chez un menuisier européen. parle pas d'un menuisier suédois, mais bien quelconque menuisier européen, voire un menuisier français au pied de sa porte. Et d'ailleurs, comme encore une fois tout est lié, je prends l'exemple de l'équitable, comme tout est lié, les conditions environnementales sont souvent bien meilleures. Il y a une très forte proportion de bio qui est équitable et inversement. Et donc, dans ce cas, on est dans la partie action, dans le troisième temps du don qui est le don en lui-même. Se dire donner aux pauvres, donner aux pauvres, ça peut être tout simplement, je mets des guillemets entre tout simplement, d'arrêter de prendre. Donc, de donner, dans un premier temps, arrêtons de prendre à nos voisins. Et notre aumône, plutôt que d'être une aumône financière, peut être simplement de sacrifier une partie de notre confort surabondant. Ne pas acheter le dernier téléphone à la mode, se passer un peu de chocolat, de café, de thé, etc. La troisième conséquence, qui est cette fois-ci au niveau local, avec un thème majeur de la doctrine sociale de l'Église, qui est une option préférentielle pour les pauvres. Alors là, on se dit, ok, le pauvre de mon quartier, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec les ours polaires, les éoliennes et le changement climatique? Première réponse qui est facile, c'est tout est lié. Bon, alors effectivement, c'est un peu facile, creusons. Bah, déjà, la meilleure manière de rendre concret mon désir de partage au niveau international, c'est bien d'entendre le cri du pauvre qui est à ma porte. Mon ancien curé disait une phrase que j'aime beaucoup. C'est facile d'aimer les Chinois, surtout ceux qui sont en Chine. Bon, même si avec le contexte géopolitique actuellement. Voilà. Donc, comme tout est lié, une écologie qui oublie les pauvres est une dangereuse hérésie. Si on reprend l'exemple de la maison, il serait pas logique d'habiter une très belle maison, rutilante, très bien tenue, avec des belles tapisseries, propres dans tous les coins, si on ne nourrit pas la famille qui y vit, si on ne nourrit pas nos enfants. Ben voilà, le parallèle, il est assez facile. Voilà, si dans ma maison, si ma maison est très bien tenue, si on fait des magnifiques efforts pour réduire notre empreinte carbone, mais qu'on ne prend pas soin du pauvre qui y habite, à ce moment-là, on est dans l'erreur. C'est un travers qui est clairement dénoncé par la HEDOT aussi. Au numéro 45, par exemple, à certains endroits, on crée des urbanisations écologiques, entre guillemets, seulement au service de quelques-uns, en évitant que les autres entrent pour perturber une tranquillité artificielle. Et c'est d'ailleurs frappant de constater que ce sont ces mêmes pauvres qui sont les premières victimes de notre société de consommation. On habite en famille dans un quartier populaire, dans une cité, et c'est frappant. C'est frappant, la télé, les grandes télés allumées en permanence dans les appartements, des quantités de déchets monstrueuses, du Coca-Cola à tous les repas, etc. Alors pour terminer cette première partie, voilà. Est-ce que mes efforts écologiques s'accompagnent d'actions envers les pauvres? Et voilà, et pour marquer le fait que la Laudato aussi, c'est pas seulement une lubie de gauchistes, altermondialistes, n'oublions pas également que le plus pauvre, c'est d'abord l'enfant à naître ou le vieillard en fin de vie. Alors avant de passer à notre rubrique Laudato aussi au quotidien, je vous propose de revenir au tout début de cette première partie et d'écouter un autre père en russe de Rachmaninov. Voilà. Pour intérioriser ce fait que nous sommes tous frères, en particulier en cette période de prière pour l'unité des chrétiens. Chers auditeurs, notre émission Laudato si, écologie intégrale se poursuit. Donc dans notre première partie, tout est lié. Nous avons vu les implications de ce tout est lié dans Laudato si. Je vous propose maintenant de passer à une analyse de nos systèmes économiques. Alors, quand on parle de partage, qui est le thème de ces deux prochains, enfin de ces deux topos, effectivement, économie, ça peut être une des choses qui nous vient à l'esprit, à la fois parce qu'il s'agit tout simplement de partager des biens, partager des ressources, et puis aussi parce que l'économie est souvent source de partage inéquitable. Comme tout est lié, on ne peut pas parler d'économie sans considérer tous ses impacts, et donc en particulier sociaux et environnementaux. Et puis depuis Léon XIII et Rerum Novarum, l'Église s'intéresse vraiment à ce sujet de l'économie. Dans Laudato si, c'est évidemment poursuivi avec tout un système remis en cause. au numéro 61, indépendamment de toute prévision catastrophiste, en termes donc climatiques, il est certain que l'actuel système mondial est insoutenable de divers points de vue. Et donc là, je vais reprendre nos classiques quatre relations fondamentales, avec leurs limites, à savoir que, ben, comme tout est lié, on peut difficilement trouver des impacts uniquement axés sur une de ces relations. Il peut y avoir des points forts, mais souvent, voilà, tout est lié. Prenons l'exemple ô combien symptomatique du téléphone portable, qui est, on va dire, qui est un des piliers de notre système économique actuel. Ben, la dictature de la connexion permanente me fait perdre en liberté intérieure. Des pauvres sont exploités pour les produire, la création est défigurée pour les produire, le divertissement pour lequel je peux les utiliser m'éloigne de l'essentiel, à savoir Dieu. Voilà, quatre relations anéanties, ou en tout cas blessées, par un objet de notre système économique. Alors avant de passer à ces quatre relations blessées, peut-être esquisser une synthèse de notre système économique, qui est d'une grande complexité, mais avec quelques grands principes qu'il faut bien comprendre. Le premier, qui est tout simple, assez évident, c'est la recherche de la maximisation du profit. Voilà. C'est une recherche comme une autre, mais qui n'est pas la seule, et qui pourrait être autre chose. Mais en tout cas, on a choisi, au XVIIe, XVIIIe siècle, que le but de l'économie, c'était de rechercher la maximisation du profit. Et donc, d'idolâtrer l'argent qui devient une finalité et plus un moyen. Deuxième grande caractéristique, sur lequel le pape François appuie fortement dans Laudato aussi, c'est le paradigme technocratique, à savoir que la technologie est au service de ce système qui maximise le profit, qui cherche à maximiser le profit. Au numéro 109, le paradigme technocratique tend aussi à exercer son emprise sur l'économie et la politique. L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. On assiste également à une dérégulation de l'économie au profit d'une main invisible. Alors voilà, encore une idolâtrie d'un marché qui se régulerait tout seul et il faudrait simplement accompagner les caprices. Et quatrième point très important, qui est une financiarisation de l'économie. À savoir que l'argent ne sert pas à financer des projets réels, mais à produire davantage d'argent par le jeu des bourses. C'est dénoncé par François encore dans le numéro 109. La finance étouffe l'économie réelle. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les aspects techniques, mais en gros, comme l'argent est créé sous forme de dette, qui dit plus d'argent dans l'économie, qui a circulé dans l'économie, dit plus de dette. Qui dit plus de dette, dit il faut créer de la croissance. Et qui dit créer de la croissance, dit produire toujours plus, et donc consommer toujours plus. Et donc, on voit qu'en plus d'un péché initial, qui est la recherche mal ajustée du profit, on a une structure de péché qui gouverne notre système économique actuel. Donc maintenant, si on passe nos quatre relations. Premièrement, le rapport à moi-même. On se rappelle Bernanos qui disait dans La France contre les robots, on ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Voilà, on y est, il n'y a pas besoin d'être très diplômé en philo, en théologie, pour constater les ravages du paradigme technocratique sur notre vie intérieure. D'une part, par une quantité d'informations surabondantes qui te crée une espèce de bruit de fond. D'ailleurs, François note qu'au numéro 47 de la date aussi, les grands sages du passé auraient couru le risque de voir s'éteindre leur sagesse au milieu du bruit de l'information qui devient divertissement. Et puis si on creuse, en fait, le principe de fonctionnement de base de tous les outils numériques aujourd'hui, c'est de vendre de la disponibilité de cerveau. Et il y a des neuroscientifiques qui sont payés pour concevoir les algorithmes permettant de capter au mieux l'attention. Et donc la liberté intérieure, autant dire que c'est le cadet de leurs soucis, la logique, elle est avant tout commerciale, maximisation du profit. Encore une fois, la date aussi au numéro 47, les moyens de communication sociale et du monde digital, en devenant omniprésents, ne favorisent pas le développement d'une capacité de vivre avec sagesse, de penser en profondeur, d'aimer avec générosité. Si on regarde le rapport aux autres, ben, notre vie commune, si elle est dictée non plus par la recherche du bien commun, mais par celle du profit, alors les liens sociaux se délitent, et cette recherche du profit ne peut se faire qu'au profit de quelques-uns. Au numéro 189 de Laudato aussi, François déplore que cette vision issue du paradigme technocratique contamine la politique, qui devrait être pourtant la mission la plus noble. La politique ne doit pas se soumettre à l'économie, et celle-ci ne doit pas se soumettre aux diktats ni aux paradigmes d'efficacité de la technocratie. Voilà. Aujourd'hui, l'humain est vu comme une ressource comme une autre. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de ressources humaines quand on parle de recrutement et de gestion, de gestion, voilà, d'une ressource comme une autre. Ensuite, dans le rapport à la création, au numéro 32, dans le constat de ce qui se passe dans notre maison commune, François dénonce le poids du paradigme technocratique dans la destruction de la création. Les ressources de la Terre sont ainsi objets de déprédation à cause de la conception de l'économie ainsi que de l'activité commerciale et productive fondée sur l'immédiateté. Alors, quelques exemples du poids d'un système qui ne prend pas en compte la fragilité de la création. Encore une fois, elle est vue comme une ressource comme une autre dans laquelle on peut piocher, mais pas comme un jardin à entretenir et à faire fructifier avec beaucoup de soin. Quelques exemples. Alors, il est parfois plus rentable, ça c'est intéressant, de gaspiller ou de polluer, parce qu'on dispose d'une énergie abondante et bon marché, justement de ne pas polluer. L'exemple très frappant et très récent, c'est celui de Lufthansa, qui fait voler des vols vides pour ne pas perdre de créneaux dans les aéroports. L'extraction de métaux est également très polluante. On pense par exemple à l'or, où il faut une quantité de mercure importante et qui est la plupart du temps rejetée dans les cours d'eau et qui est profondément polluante. Une mondialisation de manière générale qui est polluante. Notre système économique est basé sur des échanges entre différents pays spécialisés dans différentes choses. Alors on va venir piocher, un pays consommateur va venir piocher dans un pays atelier. Une mondialisation qui du coup est polluante. Et qui, comme tout est lié, est un désastre social avec les problèmes de délocalisation qu'on connaît. Voilà, et pour qu'il soit rentable de faire venir des objets produits à l'autre bout du monde, ça demande un impact carbone considérable avec en faisant voyager des porte-conteneurs qui polluent énormément. Le numérique n'est pas en reste, parce qu'on a beau dire que c'est du dématérialisé, et ben en fait ça reste du très matériel, parce que c'est des data centers qu'il faut refroidir, des nonnés à faire circuler dans des câbles, des terminaux, des téléphones, des tablettes, des télévisions, dont la fabrication est très gourmande en métaux, en eau et en énergie. Donc tout ça pour dire que dans notre mode de vie, dans ce qu'il a apparemment le plus simple, consulter ses mails, manger un carré de chocolat au café, acheter un objet sur Amazon, a une influence directe sur le changement climatique via notre participation à ce système économique gouverné par le paradigme technocratique. Dernière relation, la relation à Dieu. Bon, c'est plus simple, pas forcément évident, mais ça reste assez simple quand même. Si on revient à ce que j'ai dit au tout début pour présenter le système, ben, l'idolâtrie d'argent, ben, plus besoin de Dieu. On idolâtre le marché et sa main invisible, voilà, tu ne te feras point d'idole. Un impact également sur la marchandisation de la vie, je pense que ça se passe de commentaires. Sur une évacuation de la morale, ça se passe de commentaires aussi. Et puis ce système, ce paradigme technocratique puise son origine dans un rationalisme issu des philosophes modernes, donc Descartes et les philosophes dits des Lumières, qui évacuent toute forme de spiritualité. Donc voilà, on a vu que notre système économique actuel doit être réformé en profondeur parce que il menace notre relation à nous, à la création, aux autres et à Dieu, en profondeur. Il menace, et d'ailleurs, il plus que menacer, il abîme. Et donc, je dis bien réformer en profondeur. Réformer, ça ne veut pas dire juste ajouter vert à tous les maux du système actuel, au premier rang desquels la croissance qui devient la croissance verte, et tout va bien. C'est un oxymore, il faut être clair, parce que le PIB et les émissions de CO2 sont strictement proportionnels. Vous augmentez de X% le PIB, vous augmentez de X% les émissions de CO2. C'est voilà, le pape le rappelle. Le pape rappelle que le technosolutionnisme ne nous sauvera pas. Le technosolutionnisme, ça veut dire reconnaître les causes du changement climatique, mais la solution, elle est technique. On va capter tout le CO2 par des technologies qu'on connaît même pas, mais on va le faire. Ne vous inquiétez pas, on va le faire. Dans 10 ans, tout ira bien. Voilà. C'est peu crédible et ça porte sur un aspect uniquement environnemental, alors qu'on sait, et on l'a répété au long de ce topo, que tout est lié. François encourage, hein, au numéro 139, de chercher des solutions intégrales. C'est un mirage de croire que nous pouvons faire l'économie d'un changement de système. Voilà, je laisse à François le soin de prononcer le gros mot de ce topo, au numéro 193 et 194. L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde. Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Ah voilà, pour conclure aujourd'hui, donc on est passé à l'action. On a décidé de notre conversion écologique. Maintenant, que devons-nous faire? Bah, une première dimension essentielle, elle est sociale, car tout est lié. Donc, s'il s'agit du partage, tant au niveau local, le pauvre au pied de ma porte, qu'au niveau global, les pauvres agriculteurs exploités à l'autre bout du monde pour produire mon chocolat, les pauvres mineurs qui mettent les mains dans le mercure pour que mon téléphone puisse fonctionner, etc., etc. On creusera la prochaine fois cette dimension du partage en introduisant et en développant la notion de bien commun. D'ici là, je vous encourage à suivre les exercices des 3 premiers jours de la série du 16 au 22 mars dans le livret là, qui est en ressources sur le site de Radio Maria, dans la rubrique Écologie intégrale. Et donc, il s'agit des pages 57 à 68.
Alors, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Bonjour.
Oui, bonjour. Voilà, nous
Bonjour
vous
madame.
écoutons. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais agir déjà dans tout ce que je viens d'entendre, que vous nous avez fait écouter, et puis spécialement la pollution. Voilà, moi, la pollution, c'est quelque chose qui me dérange énormément, et Dieu sait s'il y en a. C'est les plastiques. Quand nous faisons nos courses, que les auditeurs, auditrices de Radio Maria qui nous écoutent prennent conscience de ne plus prendre de plastique. Même ceux qui, soi-disant, sont biodégradables, je n'ai pas trop confiance. Moi, j'ai mes sacs maintenant en tissu. Au moins, on les lave. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait écologique non plus, parce qu'il faut laver, il faut mettre du produit. Mais c'est différent. Je pense que c'est différent. On fait au mieux qu'on peut. Voilà, j'aimerais que les gens prennent conscience. Voilà. Je vous
Tout à
remercie.
fait, merci madame. Alors voilà, n'hésitez pas à écouter la prochaine émission, parce que la prochaine émission, on fera. Ah non, c'est pas la prochaine, c'est celle d'après. Donc celle du mois de mars, où on fera où on se concentrera particulièrement dans notre rubrique Laudato si au quotidien, sur cette question des déchets, comment est-ce qu'on peut les réduire au quotidien, avec en particulier, voilà, je vous
Et c'est
dévoile un
quelle
peu ce qu'on
date, s'il
dira.
vous plaît?
Pardon?
Quelle date?
Alors.
En mars?
Quelle date? C'est le troisième lundi de mars. Sandrine, je ne sais
Troisième
pas si vous
lundi
l'avez.
du mois de mars.
Voilà, troisième lundi de mars où on parlera, on fera un, voilà, on se concentrera sur la démarche dite zéro déchet.
D'accord. Je vous remercie.
Merci madame, bonne journée.
Et bonne journée. Bonne continuation.
Merci.